VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, bienvenue, il est 11h en temps universel. Le Parlement burundais a approuvé lundi un projet de loi qui étend la période d'enquête de la Commission Vérité et Réconciliation CVR jusqu'à la conférence de Berlin en 1885 pour déterminer le rôle de la colonisation sur l'unité des Burundais. La CVR avait initialement été créée en 2014 pour établir la vérité sur les massacres interethniques ayant frappé le Burundi depuis son indépendance en 1962 jusqu'au 4 juin 2008, date supposée de la fin de la belligérance armée dans le pays. Ce texte a été approuvé hier à l'unanimité par les 39 sénateurs. L'Assemblée nationale s'était également prononcée très largement en sa faveur jeudi, 98 voix pour 2 contre. Et fin hier à Arusha, en Tanzanie, du dernier round du dialogue inter-burundais, l'opposition et des représentants de la société civile étaient sur place, mais le gouvernement, qui avait demandé un report, n'a pas fait le déplacement. Qu'est-ce qui a pu sortir de ce dernier round de discussion? Idriss Fall a joint à Arusha Tassien Sibomala, le porte-parole de l'UPRONA et de l'opposition intérieure.
Oui, la session a eu lieu malgré l'absence du gouvernement et nous avons fait le travail qui nous avait été demandé par le président Benjamin Mkapa. D'abord, il a dit qu'au niveau de la facilitation, c'était la dernière session telle que l'a demandé le dernier sommet des chefs d'État tenu à Kampala au mois de février de l'année en cours. Le président Mkapa, comme facilitateur, va rédiger son dernier rapport qu'il va transmettre au médiateur et il va tout faire pour faire convoquer un sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui sera un sommet spécial pour le Burundi.
Benjamin Mkapa donc jette l'éponge en tant que facilitateur.
Je ne dirais pas qu'il jette l'éponge, mais il a terminé le mandat parce que le sommet qui lui avait donné son mandat lui a demandé de convoquer la dernière session, ce qu'il a fait en tant que facilitateur et a terminé sa mission.
Quel avenir pour ce dialogue burundais alors?
D'abord, nous attendons la décision ou les mesures qui seront prises par le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui a été annoncé par son Excellence le Président Mkapa. Dans notre document qui a été signé par tous les opposants qui étaient réunis, nous avons demandé que justement les Nations Unies réunies africaine qui avait délégué la communauté de l'Afrique de l'Est pour agir en leur lieu et place devrait garder un œil vigilant sur l'exécution du mandat qu'elles avaient confié à la sous-région. Et que donc, si jamais le sommet des chefs d'État ne prenait pas des mesures allant dans le sens de faire sortir le Burundi de la crise, ces deux instances internationales et régionales restent toujours saisies de la crise burundaise. Nous leur avons demandé de montrer au peuple burundais l'autre voie, c'est-à-dire de nous montrer un autre cadre qui va continuer l'analyse de la situation et pourquoi pas trouver la solution à la crise.
Est-ce qu'on peut trouver une solution tant que les Burundais eux-mêmes ne se mettent pas ensemble pour discuter, y compris avec le gouvernement?
C'est ça qui a manqué. Les Nations Unies, l'Union africaine, les organisations régionales, sous-régionales ont pris des résolutions qu'elles n'ont jamais mises en application. Il en va d'ailleurs de la crédibilité de ces organisations. Un pays comme le Burundi ne peut pas quand même se fier de toute la communauté internationale. Si ces instances sont unanimes que l'insécurité du Burundi peut entamer toute la sous-région, il en va justement de la crédibilité de ces instances internationales qui sont en plus les garantes de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Nous leur avons demandé donc de faire pression au gouvernement et c'est possible. Et si le gouvernement accepte de dialoguer, je pense qu'il y a moyen justement que les Burundais s'asseyons ensemble pour trouver la solution à la crise.
Vous écoutiez Tassien Sibomana, le porte-parole de l'UPRONA et de l'opposition intérieure au Burundi. La commission électorale de la République démocratique du Congo a réceptionné lundi à Kinshasa un lot de camions et aéronefs de l'armée pour acheminer le matériel des élections de décembre, conformément à la volonté de la RDC de se passer de tout appui international. 150 véhicules de fabrication russe étaient exposés devant le siège de la commission électorale nationale indépendante où les autorités en ont remis les clés au président de la CENI. Une dizaine d'avions et hélicoptères ont parallèlement été remis à la CENI lors d'une cérémonie officielle à l'aéroport international de Njili, tout près de Kinshasa. La jeune femme qui a déclenché sa charge lundi en milieu de journée en visant une patrouille de police sur la principale avenue de Tunis était diplômée et au chômage, a indiqué le parquet antiterroriste tunisien. 20 personnes, dont 15 policiers et 2 adolescents, ont été blessés dans cette attaque, la première à secouer la capitale tunisienne depuis 2015, mais aucune n'a été touchée grièvement selon les autorités tunisiennes. La vie est revenue à la normale sur l'avenue Bourguiba, hormis une présence policière renforcée sur cette artère déjà très surveillée habituellement. Au Nigeria, de nouvelles violences ont éclaté lundi entre partisans d'un groupe chiite radical et forces de l'ordre à Abuja. Elles font suite à des affrontements qui ont fait 3 morts pendant le week-end, toujours dans la capitale fédérale. Eric Manirakiza.
L'armée et la police sont affrontés des manifestants du mouvement islamique du Nigeria. Le porte-parole de ce groupe, Ibrahim Moussa, a fait état de plusieurs morts. Il n'a pas pu donner de chiffres précis car il n'était pas sur place. Un porte-parole militaire, James Miam, a affirmé que les membres de son mouvement chiite avaient attaqué des soldats et que ces derniers s'étaient seulement défendus. Amnesty International a déclaré que les informations faisant état d'usage de balles réelles sur les manifestants non armés étaient très inquiétantes. Le leader chiite nigérian Ibrahim Zakzaki ne reconnaît pas l'autorité d'Abuja et souhaite établir un État islamique à l'iranienne dans un pays où les musulmans sunnites sont majoritaires. Il est emprisonné depuis les violentes manifestations qui avaient secoué Zaria dans le nord du Nigeria en décembre 2015. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé la détention du leader chiite illégale et ordonné sa libération. Mais cette décision n'a jamais été exécutée. Ses partisans ont organisé ces derniers mois de nombreuses manifestations pour réclamer sa libération, débouchant sur des heurts avec la police.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Israéliens ont commencé ce matin à voter dans le cadre d'élections municipales, un scrutin au cours duquel un proche du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, tente de prendre la mairie de Jérusalem, tandis que les habitants du plateau syrien du Golan occupé sont appelés à voter pour la première fois. Les bureaux de vote ont ouvert à 5h GMT et doivent fermer à 20h le soir. Le jour du scrutin est férié, même si certains scrutins locaux ont constitué des tremplins pour des politiciens aux ambitions nationales. L'élection des maires et des conseils municipaux qui a lieu tous les 5 ans est largement considérée comme une affaire locale. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump doit se rendre aujourd'hui, ce mardi, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, 3 jours après la fusillade qui a fait 11 morts dans une synagogue, la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. Les détails avec Irénée Hermanoumbou.
Donald Trump sera accompagné de sa femme Melania pour exprimer le soutien du peuple américain et partager le deuil de la communauté de Pittsburgh, a déclaré hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. L'homme accusé d'avoir tué 11 personnes samedi matin dans la synagogue a comparu pour la première fois hier devant un tribunal de la ville, assis dans un fauteuil roulant après avoir été blessé par balle dans un échange de tirs avec la police. Robert Bowers, 46 ans, n'a répondu que par l'affirmative ou par oui monsieur aux questions posées par le juge fédéral. Le procureur général Scott Brady a indiqué que la prochaine comparution devant la cour était prévue jeudi à 10h. Bowers a été inculpé samedi de 29 chefs d'accusation, dont certains passibles de la peine de mort. Il a tué 11 personnes et en a blessé 6 autres, dont 4 policiers.
Le procureur général d'Arabie Saoudite s'est de nouveau entretenu aujourd'hui avec son homologue d'Istanbul dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat de son pays dans la métropole turque. Selon les médias, Saoud Ben Abdallah Al-Mouajab est arrivé au palais de justice d'Istanbul puis après 8h GMT pour rencontrer le procureur général de la République turque à Istanbul, Irfan Fidan, pour la deuxième fois en autant de jours, indiqué l'agence étatique Anadolu. L'entretien de lundi avait duré plus d'une heure. Et puis la plus haute juridiction de Corée du Sud a ordonné aujourd'hui à un géant japonais de l'acier de dédommager des travailleurs forcés de la Seconde Guerre mondiale, un jugement qui devrait envenimer davantage les relations entre les deux voisins. L'arrêt rendu aujourd'hui par la Cour suprême constitue probablement le dernier acte d'un marathon judiciaire qui dure depuis 21 ans, lancé par 4 Sud-Coréens, dont un seul est encore en vie, contre Nippon Steel. Ils accusent l'entreprise de les avoir contraints à travailler dans ces aciéries entre 1941 et 1943. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.